Vous écoutez RTL.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Tennessee Garcia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes secrétaire général CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires. Pour qu'on comprenne bien, quand on parle d'offres illégales, de quoi s'agit-il ? Pouvez-vous nous donner des exemples très concrets ?
Quand on parle d'offre illégale, on parle d'une offre qui n'est pas conforme au contrat de travail que vous pourriez signer quand vous postulez effectivement à une offre. Donc vous avez dit un peu des exemples, mais ouais. On parle d'offres qui sont inexistantes, par exemple. Donc c'est de la folie parce que les offres qu'on a étudiées, nous, ce sont des offres qui étaient publiées seulement la veille. Et ça veut dire que c'est des offres qui n'ont jamais existé. On parle d'offres qui sont mensongères, par exemple des CDI renouvelables ou des CDD renouvelables, des CDD qui sont évolutifs vers un CDI, et ça, ce sont des mentions qui sont interdites dans le Code du travail, ou aussi des offres qui sont totalement mal classées, et donc ça veut dire que vous tombez sur une offre qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel vous cherchez. Et je pense aussi à tous les temps partiels, notamment qui concernent principalement les femmes, pour lesquels la loi impose de préciser le nombre d'heures que vous allez travailler et le planning, et souvent ça fait défaut.
Et publié tel quel par Pôle emploi, parce que, excusez-moi, mais même pour mettre une petite étiquette chez mon boulanger, vous voyez ce que je veux dire, en gros, j'ai l'impression qu'il enquête un peu pour savoir ce que je vais mettre sur son petit muret ou sur son petit nœud d'annonce.
En effet, c'est comme ça depuis 2015, depuis que Pôle emploi a décidé de ne plus contrôler lui-même les offres avant la publication, et pourtant c'est sa mission principale, la première mission dans le Code du travail, c'est de collecter, de publier les offres, de les proposer aux demandeurs d'emploi. Et c'est maintenant, dans plus de 75% des cas, l'étude le montre, un des 123 sites privés, donc je ne sais pas si on peut les citer, mais c'est Monster, Jobijoba, Indeed, qui publient directement ces offres sur le site pôle-emploi.fr avec aucun contrôle.
Aucun filtre.
Alors, il y a un filtre qui est... mais le terme de filtre, il est bon, parce que Pôle emploi, maintenant, ne le fait plus faire par des conseillers Pôle emploi, mais par un algorithme, c'est-à-dire par un logiciel. Et nous avons prouvé précédemment, et à nouveau dans cette étude-là, que cet algorithme, c'est une passoire.
De combien d'erreurs parle-t-on ?
On parle de 50% d'offres qui sont illégales.
Une sur deux ?
Une sur deux, illégale. Aujourd'hui, illégales.
Selon la direction de Pôle emploi, le nombre d'offres illégales serait d'au moins une sur dix, souvent à cause d'erreurs de petites entreprises qui ne sauraient pas comment publier des annonces. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication ?
Leurs chiffres, ils ne m'étonnent pas parce qu'effectivement, comme on en avait déjà parlé à la CGT, ils avaient
fait... Une sur dix, ce n'est pas une sur deux. Or, vous dénoncez une sur deux.
Ils avaient fait leur propre étude dans laquelle ils ont exclu d'emblée toutes les mentions effectivement qui sont obligatoires par le Code du travail, en se concentrant exclusivement sur les offres qui sont vraiment frauduleuses. Donc c'est normal qu'ils arrivent à ce chiffre-là, d'autant plus qu'on a demandé effectivement qu'on nous montre l'étude, qu'on nous montre les offres qui avaient été regardées, et que ça n'a jamais été le cas.
Tennessee Garcia, y a-t-il un secteur où vous avez remarqué plus d'erreurs ?
Bien sûr, c'est le secteur du service à la personne, dans lequel on trouve non seulement le service à la personne, mais le service aux collectivités, donc ça peut aussi toucher l'emploi public, et c'est effectivement un secteur où la précarité est grandissante, et ça conduit dans ce secteur-là particulièrement à 68% d'offres qui sont illégales.
Mais dites-moi, ça peut avoir des conséquences pour le demandeur d'emploi, parce que s'il refuse l'offre qui en fait est inexistante.
Il peut être radié. On est en plein dans le débat effectivement sur l'offre raisonnable. Et comme effectivement à Pôle emploi, on est maintenant dans l'ère du tout numérique forcé, de la dématérialisation effectivement à marche forcée pour les demandeurs d'emploi, même quand on ne l'a pas demandé effectivement, et bien si vous refusez une offre qui pourtant est illégale, qui pourtant n'est pas de votre secteur ou n'existe pas, et bien vous pouvez être radié.
Bah alors on se demande parfois si à la CGT vous n'êtes pas par principe contre la modernisation. Vous savez que c'est un procès d'intention qu'on vous fait régulièrement, en particulier avec les algorithmes qui rendent quand même des services. Est-ce que vous défendez la présence et le contrôle humain par principe ou vous pensez que tout simplement il est plus efficace ? Parce qu'il y a des algorithmes qui font très bien leur boulot parfois dans certains domaines.
Là, on regarde effectivement, après une étude sérieuse, sur des faits. Nous, on voit par exemple que quand les offres d'emploi sont publiées directement par Pôle emploi, donc elles ont été contrôlées par un agent, un conseiller, il y a un taux d'illégalité qui est bien bien moindre, qui est 4 fois moindre. Donc c'est vraiment effectivement quand ça vient par des plateformes privées qui sont des sites, qui sont des vautours de l'emploi, qui sont là effectivement uniquement pour se faire de l'argent sur le dos des chômeurs, que ça vient. Et effectivement, l'étude, elle montre également par rapport à ça que ces plateformes-là de l'emploi, elles placent les offres directement sans aucun contrôle. Pôle emploi nous avait dit on va modifier l'algorithme parce qu'on a eu vent effectivement de cas de fraude. Et on voit aujourd'hui que malgré des modifications, des mises à jour, ça n'a rien changé.
Merci beaucoup Tennessee Garcia. Je rappelle que vous êtes secrétaire général CGT des travailleurs privés d'emploi précaires et que vous nous avez annoncé ce matin en exclusivité sur RTL que donc une offre d'emploi sur deux était régulièrement totalement bidon. Bonne journée à vous.
Merci.
Un témoignage, un avis.
Venez le partager sur RTL.
3210.
Bonjour Thierry.
Bonjour Yves.
Merci d'écouter RTL. Alors vous le savez, à 8h20, nous serons avec Stéphane Bern à l'occasion du lancement de ce loto du patrimoine. Stéphane n'était pas content ces derniers jours. Il va nous expliquer à la fois ce qu'il satisfait et ce qui ne va pas en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de ce loto ?
Oh, c'est une excellente idée. Je l'avais déjà dit il y a quelque temps, mais c'est une excellente idée pour sauvegarder notre petit patrimoine qui est en péril absolument partout en France, où les communes ont plus forcément les moyens de financer les rénovations, ou les particuliers à qui le petit patrimoine appartient ont pas forcément les moyens non plus, parce qu'ils peuvent avoir hérité d'une façon ou d'une autre d'un petit château, d'une petite propriété, et ça coûte très très cher à entretenir. Et aujourd'hui, c'est très compliqué à entretenir et à suivre et à faire vivre, parce qu'en fait, les touristes qu'on reçoit en France viennent pour notre petit patrimoine. Ils viennent pour Versailles, ils viennent pour la Tour Eiffel, mais ils viennent aussi pour le petit patrimoine,
ces petits coins de bonheur qu'on a sur notre pays.
Alors, la vraie vie des gens.
En quelques mots, s'il vous plaît, vous-même, vous participez à des restaurations, vous donnez un petit coup de main.
J'ai beaucoup participé, puis j'y participe encore de façon différente, mais j'ai beaucoup participé par les offices de tourisme, puisque j'ai été vice-président d'un office de tourisme, où on a relancé beaucoup de choses, la Nationale 7 par exemple. J'ai tout le petit patrimoine qui est autour de la Nationale 7, à Pouglézo par exemple, dans la Nièvre, où on a retrouvé tout un processus qui avait été mis en place au 19e siècle pour faire, par exemple, des cures d'air. C'était une ville d'eau, mais il y avait aussi une cure d'air en plus de la ville d'eau. Donc on a retrouvé des vieux bâtiments, des vieux emplacements de bâtiments, on a remis ça au goût du jour, et ça attire du monde. Il y a des visites organisées régulièrement.
Je ne doute pas que ça ait du succès, parce que notre Nationale 7, elle reste tout à fait mythique. Merci de nous avoir dit, en tout cas, que vous souteniez à fond ce fameux loto du patrimoine dont nous reparlerons, je vous le rappelle, à 8h20. Avec Stéphane Bern. Bonne journée à vous Thierry, et merci d'écouter RTL.